Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme à l'habitude, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy.
Hey, salut Mario, ça va bien?
Oui, ça va super bien. Guy,
oui.
C'est une émission un peu spéciale qu'on va faire ce soir. Puis toi, tu sais pertinemment ce que je vais expliquer à nos auditeurs. Expliquons la problématique. Depuis plus qu'un an, je veux faire une émission sur Kubernetes. Je considère que c'est un sujet important, qu'il faut qu'on en parle. Puis malheureusement, en tout cas, la vie ne m'a pas permis d'entrer en contact avec... je connais des experts à Kubernetes, mais ils parlent tous soit anglais ou soit une autre langue, mais pas la langue française. Puis je sais, moi, pertinemment, depuis plus que 6-8 mois, que j'en connais un expert à Kubernetes, ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise très, très bien Kubernetes. C'est toi, Guy. Mais malheureusement, t'es co-animateur, donc c'est difficile de faire une émission avec le co-animateur. Et bon, pour nos auditeurs qui ont écouté la dernière émission qu'on a faite sur qui était un peu spécial 15e anniversaire, où on a reparlé de certification, puis j'ai rappelé que la première émission qu'on avait faite en 2004, c'était sur les certifications. On avait à l'époque Éric Côté qui était l'invité. Je commençais ça de façon parce que j'avais même pas de co-animateur. Puis et je rappelais que Guy, tu avais été le deuxième invité au podcast. Tu nous avais parlé de VSTO, Visual Studio Tool for Office, technologie qui est morte de sa belle mort depuis plusieurs années pour le bénéfice, je pense, de
tout le monde. Pour le bénéfice de tout le monde, oui.
puis quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, ben écoute, peut-être que je pourrais inviter Guy et demander à Éric Côté de venir faire le co-animateur comme on avait fait en 2004. Mais cette fois-ci, pas parler de Tools for Office, mais plutôt de parler de Kubernetes. Donc là, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai appelé Éric Côté, puis j'ai dit « Oui, bonjour Éric, ça va bien? »
« Oui, Mario, ça va très bien. »
Puis là, je t'ai dit, Éric, t'intéresserais-tu venir faire le co-animateur pour une émission? Parce que là, ça fait 13 ans maintenant que nous... En tout cas, pas qu'on se revoit pas, mais que tu fais d'autres choses, mais principalement, là, tu occupes ton temps depuis plus qu'un an sur la formation autour des technologies React. T'as même fait avec nous un podcast, il y a un an sur React.
Absolument.
Puis, t'as gentiment accepté de dire, oh, ouais, je peux bien venir faire le co-animateur. Les mauvaises langues qui écoutent souvent le podcast diraient de toute façon, co-animateur, il y a de la misère à dire deux mots parce que Mario parle tout le temps.
Absolument. Écoute, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire ici, mais ça va me faire plaisir d'aider à poser des questions.
Le but du co-animateur, là, c'est de ramener Mario dans quelque chose de concret.
D'un. Puis je pense de deux aussi, c'est que on dirait que ça me donne confiance, que c'est comme si j'avais un filet en dessous de moi, puis je me dis, ben si jamais ça va mal, il y a quelqu'un qui va rattraper le tout, puis qui va rediriger la conversation. Mais Guy, ce que toi tu fais beaucoup, puis que j'apprécie, c'est que tu reviens beaucoup avec tes questions pratico-pratiques, en disant, ouais, mais là, comment on fait quand on veut démarrer? En tout cas, le genre de sujet que moi, dans l'effervescence, je peux comme oublier. On va espérer...
Comment ça marche?
C'est ça. On va espérer que ce soir, vu que c'est toi, Guy, qui est l'invité, que Éric va nous ramener à l'ordre en disant, mais là, Kubernetes, là, comment on déploie ça? Habituellement, ce qu'on fait à chaque émission, c'est qu'on présente notre invité. Mais là, Guy, je pense que les auditeurs te connaissent pas mal bien. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est présenter le co-animateur spécial. Éric, je disais brièvement tantôt que tu occupes la majorité de ton temps à donner de la formation autour de React, donc du développement web. Si tu peux juste nous expliquer un peu ce que tu fais.
Alors moi, j'ai présentement une école de formation qui s'appelle React Academy. Je suis le plus grand fournisseur de formation React au Canada. Et puis, je fais ça déjà depuis un peu plus d'un an. Et c'est le fun parce que c'est une technologie que j'aime beaucoup. C'est le fun de voir à quel point que c'est le fun de faire des composantes et de les monter ensemble. Donc, ça, c'est le côté le fun de ce que je fais. Mm-hmm. Puis, voilà.
Puis, grosso modo, c'est le modèle des fameuses académies. Guy, toi, tu fais ça aussi avec Kubernetes, le Kubernetes Academy. C'est que vous donnez des formations publiques, je pense une fois au mois ou aux deux mois, puis vous donnez surtout des formations en entreprise, si je me trompe.
Exactement. C'est ça qu'on fait.
Donc, puis si les gens veulent aisément te rejoindre, est-ce que tu as aussi un react.ac? C'est ça que tu as comme nom de domaine?
Oui, exactement. Ils peuvent taper react.ac ou le vrai site qui est reactacademy.ca.
OK, super. Juste pour nos auditeurs qui connaîtraient moins, tu as toujours été dans le développement web. Moi, je me souviens, écoute, dans les années 2000, quand j'ai commencé à te connaître, tu donnais beaucoup de formations autour d'ASP.NET. Là, on parle du vieux modèle ASP.NET. Donc, ça...
Oui, les web forms.
Ouais, ouais. Hein, donc ça nous rajeunit pas. Et puis bon, t'as poursuivi, t'as passé toute la phase jQuery, ensuite les modèles MVC avec ASP.NET, et t'as sauté t'as quitté le monde Microsoft pour sauter dans tout ce qui serait le développement web, je dirais plus comme 2014-2015, puis surtout adopter React, hein?
Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que le modèle devenait de plus en plus client-based, c'est-à-dire on faisait des single-page applications sur le client de plus en plus, et le serveur était vraiment relégué au rôle de servir des API REST. Alors avec ça, je me suis dit, bon, ben les API REST, c'est le fun à faire, mais c'est beaucoup plus simple comme problème à régler que le single page application. Là, les frameworks sont sortis pour nous aider à faire ces single page applications là. Et puis il y a comme beaucoup d'infrastructures et de développement qui se font autour de ces pôles là. Et c'est le fun à développer. Ça me ramène un sourire.
Je suis curieux, Eric. Bon, c'est sûr que tu sais, pour tout ce qui est du côté client, c'est du React quand tu donnes la formation, mais veux pas, t'as pas le choix à un moment donné de te faire aussi des API REST. Dans tes formations, tu utilises plus Node.js pour faire les API ou tu reviens à faire du ASP.NET .NET Core ou tu mélanges les deux ou
En fait, je mélange les deux. C'est clair qu'il y a quelque chose de le fun à essayer, quelque chose de nouveau. Alors, ASP.NET a la dent longue et il y a quelque chose de le fun à utiliser Node.js. Alors, oui, j'utilise Node.js avec Express puis avec toutes sortes de technologies à côté, incluant des technologies telles que Express puis Loopback.
Tout à fait. Ben écoute, Eric, j'espère que nos auditeurs, ça leur donne une meilleure chance de te connaître. Puis, sans plus tarder, là, on va revenir sur le sujet qui est Kubernetes. Puis,
c'est drôle comment tu le prononces, Kubernetes. Tu prononces pas le S à la fin.
Je ne sais pas comment il faut le prononcer correctement.
Ben, en anglais, on dit Kubernetes. Donc, on prononce le S à la fin. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Kubernetes?
Aucune idée.
Ah, c'est du grec, mon cher, et ça signifie le pilote d'un navire ou la personne qui est à la barre du navire.
OK, c'est pour ça que en tout cas le symbole souvent, c'est
c'est le gouvernail.
Un gouvernail.
Oui, absolument. Oh, oui, c'est un gouvernail, donc c'est de là que ça vient. Mais à l'origine, Kubernetes, en fait, ça provient. C'est un produit qui est sorti de Google, des entrailles de Google. Donc Google a travaille avec des conteneurs depuis bon nombre d'années, même avant que Docker soit connu, soit même au monde. Puis en fait, c'est la troisième génération d'orchestrateurs de chez Google. Il y a eu deux autres générations précédemment. Puis la première s'appelait Borg, comme dans Star Trek Next Generation. Mm-hmm. Puis la deuxième s'appelait Omega. Et puis la troisième génération, ben Google fait quelque chose là à l'interne. Et puis finalement mis open source ce projet-là. et puis le donner à un organisme qui s'appelle le Cloud Native Computing Foundation, le CNCF. Donc maintenant, c'est cet organisme-là qui gère la direction dans laquelle le bateau Kubernetes prend la mer, là, finalement.
Puis j'imagine que le CNCF, là, maintenant, tous les gros joueurs du côté du cloud sont membres de cette organisation-là, que ce soit les Amazon, Microsoft et compagnie.
Alors, le CNCF gère plusieurs projets open source. Kubernetes, c'en est un. Il y en a d'autres qui s'appellent Prometheus, Envoy, CoreDNS, ContainerD, Jagger. Donc, plein de projets qui sont sous la gouverne de cet organisme-là qui fait partie de la Linux Foundation aussi.
OK. Puis Google, là, quand eux autres, tu disais que c'est comme leur troisième génération d'orchestrateurs. Mm-hmm. Donc, quel problème? Pourquoi Google avait besoin de créer Kubernetes à la source? C'est sûr que, bon, ça se peut que les problèmes ou les souffrances que Google avait n'ont rien à voir avec nos souffrances à nous, mais à la base, eux, pourquoi ils ont senti besoin d'avoir cet outil-là?
Bon, Google, évidemment, avec Gmail puis avec tous les produits, a besoin de monter d'un système pour monter en charge de façon incroyable. Là, on parle de gérer là des microservices là de façon incroyable là, sur des centres de données un peu partout sur la planète. Et puis ça prend quelque chose pour pouvoir gérer le code, gérer les déploiements, gérer les mises à jour, puis scaler sur des centaines, des milliers, des millions de serveurs. Donc, ça prend un engin qui va permettre de faire ça. Ces engins-là, on les appelle les orchestrateurs. Et puis, Google a été précurseur parce que premièrement, les quand on parle de conteneurs, ça date pas d'hier. Hein? Là, on connaît Docker. Ça fait quelques années que Docker existe, mais c'est un concept là qui existe depuis le début des années 70. Là. Mm-hmm. Donc, à l'interne.
C'est quelque chose qui est disponible avec pas Linux, mais qui était disponible initialement avec Unix. On remonte dans les années 80. En tout cas, ça fait longtemps qu'on peut faire des conteneurs directement en utilisant des services qui sont fournis par le système d'exploitation.
Ouais, puis Google étant sur Unix, sur Linux, ben eux ils ont créé ces orchestrateurs-là pour pouvoir justement gérer leur déploiement, gérer le code, pouvoir le scaler. Un petit peu comme Microsoft l'a fait dans Azure avec Service Fabric. Mm-hmm. Peu de gens le savent, mais la plupart des produits, des services Azure ont été développés avec Service Fabric. Comme, je sais pas moi, SQL Database, ça a été développé avec Service Fabric. Donc, ces outils-là sont nécessaires pour pouvoir scaler là de façon mondiale des applications. C'est sûr que c'est un problème là qui nous touche peut-être moins quand on développe des applications en entreprise, mais dès qu'on commence à toucher là au microservices là, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant.
Mais moi il y a quelque chose que je comprends bien présentement, c'est-à-dire que on a vu l'historique un peu d'où ça vient Kubernetes, mais là, tu as parlé de Service Fabric et je sais que Service Fabric a plein de services associés avec ça. Est-ce que Kubernetes, c'est aussi un menu avec plein de services?
Kubernetes, c'est un orchestrateur. Donc, l'orchestrateur, lui, a des tâches qui sont très précises, là, qui permettent de gérer nos microservices. Mais si, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, faut faire un petit pas en arrière pour bien comprendre là pourquoi, en fait, quelles souffrances Kubernetes ou un orchestrateur cherche à régler. On est parti du bon vieux modèle, si on remonte un petit peu dans le temps, là, du bon vieux modèle d'application trois tiers, hein, c'est-à-dire que on a une couche web, une couche back-end, de business layer, puis on a un data layer avec une base de données en quelque part. Ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est que c'était difficile de monter en charge, c'est-à-dire d'avoir que notre application puisse monter en charge facilement. Parce que la problématique, c'est qu'on devait monter tout d'un coup ou rien. Donc, les microservices, le concept de microservices est venu régler cette problématique-là parce que on a pu briser nos applications en plus petits morceaux. Et en les brisant en plus petits morceaux, ça a été plus facile de les déployer, puis aussi plus facile de les faire monter en charge. Donc, par exemple, si j'ai brisé ma partie back-end en plusieurs microservices, il y en a un qui sert, je sais pas moi, à faire la gestion des logs, l'autre la gestion les appels aux bases de données. Donc, si à un moment donné mon microservice qui s'occupe de faire le transfert d'image d'un système à l'autre est très très occupé, ben je peux le monter en charge uniquement cette partie-là. Donc je peux, au lieu d'en avoir je sais pas moi 3, 4, 5 instances, je peux en avoir 10, 20, 30 instances qui vont répondre à la charge.
Ça, c'est important chez Google parce que si tu as une grosse application monolithique, ça veut dire qu'il faut que tu... Mettons que tu te dis, hey, il faudrait que je donne 100 fois plus de puissance au module justement qui fait la conversion des images. Mais là, si c'est 100 fois l'application complète qu'il faut que tu décupes, et mais ça coûte cher. Tandis que là, si tu prends juste le petit module qui fait la conversion d'image, là, lui, tu le multiplies par 100, puis ça ne coûte pas, en tout cas, en coût de CPU, puis en coût de ta machine, c'est moins cher que de... Pourquoi on voulait compartimenter chacune des responsabilités qu'on trouvait dans une application?
Exact. Donc, au lieu de redéployer à chaque fois 100% de l'application, ben tu déploies le 2-3% qui a beaucoup de demandes, qui est peut-être problématique parce que ça prend un petit peu plus de CPU. Donc, tu veux partager la charge sur plusieurs serveurs. Donc, c'est ça l'avantage des microservices.
Tout à fait. OK. Donc là, je comprends un peu ça. Et pour avoir ce bénéfice-là, ben, tu n'as pas le choix, à un moment donné, d'être en mesure de bien gérer comment tu instancies. S'il y a un service qui tombe mort, ben là, souvent, ta stratégie, ça va être juste de dire, ben, je redémarre un nouveau service from scratch. Mm-hmm. Parce que tu t'assures que tu n'as pas de dépendance, mettons, sur un état, c'est-à-dire que c'est, soit en anglais, on va dire stateless, là, c'est sans état. Ben là, il peut mourir, t'en repars un autre à côté, puis ni vu ni connu, l'utilisateur s'en rend pas compte, puis que t'as peut-être un service qui a de la difficulté puis qui est toujours en train de planter, mais toi, tu le redémarres avec un orchestrateur. Et comme ça, tu compenses pour le fait que peut-être qu'il y a un problème dans le code, mais avec une stratégie qui est plus de déploiement.
Oui, parce que les microservices, ce qui a été intéressant aussi dans le temps, c'est que on a commencé à les déployer dans des conteneurs. Mm-hmm. Donc, Docker a vu le jour, a démocratisé l'utilisation des conteneurs. C'est super facile maintenant de packager notre code dans des conteneurs. Le conteneur, c'est quoi? C'est une unité de déploiement. Donc, notre code, lui, il va rouler dans le conteneur. Il a tout ce qu'il a besoin pour rouler. Il a son runtime, il a tout. Il est un petit peu indépendant, là. Donc, il est assuré de rouler. Donc, ça, on a maintenant packagé nos microservices dans des conteneurs pour que ça soit plus facile de les déployer. Mais comme tu disais, Mario, la problématique, c'est sans orchestrateur. Ben, comment je fais pour monter en charge les microservices individuellement. Mettons là que j'ai mon fameux microservice là, de conversion d'image, j'ai celui de, c'est ma logique d'affaires, je sais pas, j'en ai un autre
tout
pour l'accès au
données. L'authentification, donc...
Oui, absolument, là.
Puis donc, si quelqu'un annonce, mettons, je sais pas, moi, sur un site web, puis tu as beaucoup de visiteurs, tout d'un coup, tu peux avoir des milliers puis des millions de personnes qui essaient de frapper ton site web, puis qui veulent tous se loguer en même temps. Par exemple, les gens qui font les impôts, eux autres, ils ont une montée en charge exponentielle. En tout cas, au Canada, c'est au mois d'avril qu'on fait les impôts, je sais pas pour en Europe, mais du moins, c'est sûr que que tu vives dans n'importe quel pays, il y a une période de l'année où tu dois faire ton impôt. qui disait ça en joke? Il dit, il y a deux seules choses sûres, c'est qu'on va mourir et on va payer de l'impôt.
On paye des taxes, oui, c'est ça.
Mais ça pour dire que sans orchestrateur, c'est difficile de gérer puis de faire en sorte que tu puisses automatiser, si tu as besoin d'automatiser ce travail-là, sinon tu vas...
Oui. Fait que, par exemple, là, la montée en charge, si je dois monter en charge là uniquement là la partie de conversion d'image, là, parce que j'ai beaucoup plus de demandes sur ce service-là dans mon application. Les gens uploadent plus d'images, font plus de conversions. Je peut-être pas scaler les autres microservices, mais je voudrais scaler seulement ceux-là. Je vais en avoir beaucoup plus. Et comment je fais si j'ai une application monolithique? Ben ça, c'est, il faut que je déploie toute l'application. Mais si j'ai pas d'orchestrateur, faut que je redéploie un petit peu mon application complète. Parce que je vais donner un exemple. Dans Azure, on peut rouler des conteneurs dans App Service, comme dans Web App for Containers. Donc, c'est possible de rouler notre service web qui va se trouver dans un conteneur. C'est possible aussi d'avoir un site web qui va rouler plus qu'un conteneur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les multi-containers. Donc, c'est sûr qu'il y en a un qui coûte sur le port 80 pour répondre au trafic web, mais je pourrais avoir un sidecar, un deuxième ou peut-être même un troisième container qui sont plus des workers. Mais encore là, dans App Service, c'est comme monolithique. Donc, j'ai eu beau créer des microservices, briser mon application en petits morceaux, j'ai eu beau les mettre dans des conteneurs, je reviens au point de départ. Donc, mon application est quand même monolithique, même si j'ai fait tout ce qui était correct pour la briser, pour éventuellement la scaler. De sorte qu'avec un orchestrateur, ben, je peux contrôler les différents morceaux, les différents microservices. Individuellement, je peux dire celui-ci, ben, j'en veux 50 instances, par exemple.
Mais là, Guy, là, dans ce contexte-là, Guy, comment on fait pour monter en charge?
Bien, ce qui est intéressant, c'est que Kubernetes nous aide à faire la montée en charge, c'est-à-dire qu'on peut dire je veux X nombre de ces microservices-là, puis en plus, il nous aide à partager la charge. Donc, il y a un load balancer, il y a des fonctionnalités de load balancing à l'intérieur qui fait en sorte qu'on peut load balancer. Donc, si on a, je sais pas moi, 10, 20, 30 instances d'un microservice, on peut partager la charge sur toutes les instances. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que un autre bénéfice des orchestrateurs, c'est que, par exemple, j'ai une dizaine de machines virtuelles dans lesquelles je peux déployer mes conteneurs. Il va partager les 10 ou les 20 instances sur chacun de mes machines virtuelles, par exemple.
OK. Mais là, Guy... Tu sais, je comprends l'avantage qu'il y a d'avoir une architecture avec des microservices, de déployer vers le cloud. Mais là, si moi, dans mon entreprise, là, oui, on est en train de faire une migration vers le cloud, mais on n'est pas tout à fait là. Ben, ça veut-tu dire que Kubernetes, c'est pas quelque chose d'intéressant pour moi ou ça se déploie? Ma question, en réalité, c'est, ça peut-tu se déployer sur, localement, sur un serveur, ça, que Kubernetes, ou ça marche juste pour le cloud?
Non, 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 ça, tu peux l'installer en entreprise. C'est-à-dire, tu peux l'installer sur des machines virtuelles dans ton entreprise. En fait,
Peux-tu l'installer sur mon Windows 10 localement?
Pour le développement, on va y revenir un petit peu plus tard, mais pour le développement, oui, tu peux l'installer sur ta machine de développement, oui, sans problème. Donc, ce que ça te prend, finalement, c'est une série de machines virtuelles. Parce que si on parle un petit peu d'architecture, le Kubernetes, est divisé en quelques morceaux là qui sont très précis. Le premier morceau, c'est le master. Donc normalement, c'est une machine virtuelle qui va rouler des services ou on les appelle des managers qui ont des tâches précises. Puis souvent ce qu'on appelle le master le control plane. Donc c'est là où vont toute la configuration, tous les services qui vont surveiller, qui vont faire de la montée en charge, qui vont surveiller aussi la santé de nos différents containers, c'est là qu'ils vont être. Donc sur ce master là. Donc normalement c'est sur une machine virtuelle qui est spécifique et on déploie pas nos microservices là-dessus. Donc on laisse là la machine virtuelle là rouler ses différents services ou managers. Les autres machines virtuelles, donc on peut en avoir une autre, deux autres, trois autres, une centaine d'autres, des milliers d'autres. On les appelle des nodes. Donc les nodes. Ce sont des machines virtuelles ou physiques encore. Puis on les appelle aussi les workers. C'est là qu'on va déployer nos microservices puis nos containers.
Mais là, je t'entends parler de machines virtuelles.
Oui.
Au tout début, tu me parlais beaucoup de Docker, de conteneurs. Faisons la nuance là, c'est-à-dire l'orchestrateur, lui, il roule sur une machine virtuelle, mais ce qu'il va déployer, c'est des conteneurs?
Oui, absolument. Donc, il va gérer nos applications en microservices qui sont packagées dans des conteneurs, effectivement.
OK. Donc, si je comprends bien, pour utiliser Kubernetes, ça te prend un master, donc une machine virtuelle qui va être le maître.
Oui.
Donc, c'est une architecture maître-esclave. C'est-à-dire que tu as un master... Puis t'as, après ça, d'autres nœuds, vous appelez ça des nœuds dans la communauté,
ouais,
c'est essentiellement des esclaves qui, eux, ont la mission de déployer des conteneurs.
Oui, absolument. Puis à l'intérieur de ces nœuds-là, on a ce qu'on appelle les pods. Donc, un pod, son rôle, c'est d'exécuter ou de rouler là, ou d'encapsuler là, un conteneur.
Donc, j'ai un master qui contrôle des nœuds, qui sont des esclaves, et chaque esclave, chaque nœud, a un ou plusieurs pods qui sont qui sont essentiellement des conteneurs qui eux autres peuvent être n'importe quelle technologie, mais principalement, on va utiliser Docker. Est-ce que c'est...
Exactement. Donc, sur un nœud, sur un node, je peux avoir un ou je peux avoir des dizaines, des centaines, des milliers de pods. Qui vont chacun rouler un conteneur la plupart du temps. C'est possible de rouler plus qu'un conteneur dans un pod. Normalement, on utilise le patron là du sidecar, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le maître, le conteneur maître, puis le sidecar, lui, va faire une job d'appoint comme écrire des logs ou faire quelque chose d'appoint pour libérer un petit peu le travailleur principal, le conteneur principal. Mais c'est ça, là, l'architecture de base, là, c'est que t'as ton master qui est une machine qui va rouler le cœur de Kubernetes, donc tous les agents qui vont surveiller la santé de nos containers, de nos microservices. Et t'as les nœuds là que tu peux en avoir des un ou des dizaines, des centaines là, qui vont rouler les conteneurs.
Donc avec une architecture justement maître-esclave de cette nature-là, si je comprends bien. De perdre, mettons qu'il y a un de tes esclaves qui, lui, pour une raison tombe en erreur, donc meurt, ça te dérange pas trop parce que tout ce que tu fais, c'est que lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit redémarrer un nouvel esclave.
C'est exact. Donc, le premier qui peut mourir au champ de bataille, c'est le pod. Donc, le pod qui va contenir le conteneur. Donc, okay. Les pods, il faut que les voir comme des exécutions qui sont éphémères. Donc, ils vont peut-être mourir de leur belle mort. Puis là, Kubernetes, lui, les agents vont valider la santé de ces différents pods-là, dans lesquels on va rouler nos conteneurs. Puis s'il y en a un qui meurt, ben va instancier un autre. Parce qu'on lui a dit, mettons, pour ce type de microservice-là, ce microservice-là en particulier, je veux tout le temps avoir 10 copies qui roulent. OK? Et une des tâches de l'orchestrateur, c'est de dire s'assurer qu'il y en a tout le temps 10 qui roulent. Donc, s'il y en a un qui tombe au combat, qui meurt, ben, je sais pas moi, ça peut être une erreur de code ou quelque chose qui le fait planter, mais tout de suite, l'orchestrateur, lui, va détecter, « Hey, j'en ai plus 10, j'en ai 9 qui roulent, j'en ai besoin d'un autre, donc il y en a un autre qui va être instancié puis qui va être déployé sur le nœud. » Même chose pour le nœud. Si un nœud tombe, ben il y a un nouveau nœud là, qui va être instancié.
Ces règles-là, où est-ce qu'on les écrit, Guy? Est-ce qu'on a genre un document de configuration ou est-ce qu'on a un site web ou une application web avec laquelle on configure ça? Comment on fait ça?
Donc, comment on va déployer nos applications puis comment on va les configurer finalement? On va utiliser ce qu'on appelle des fichiers YAML, YAML. Je sais pas si vous avez déjà eu à jouer avec ce type de fichier-là.
Oui, oui.
C'est un acronyme pour Yet Another Markup Language, YAML.
Oui, effectivement. Puis c'est un fichier texte, finalement, qui va contenir les définitions. Donc, c'est la plupart du temps, là, c'est un key value pair. Donc, il y a une clé quelconque, là, puis on y ajoute une valeur. Puis tout ça est lisible. Donc, pourquoi un nouveau langage de markup, là, comme tu viens de dire, Mario? Ben, pourquoi on n'aurait pas pu utiliser JSON? On peut utiliser du JSON, mais le YAML est plus facile pour un être humain à lire. Donc, ça prend une petite courbe d'apprentissage au début. C'est OK, c'est quoi la structure? Parce que là, on parle de, bon, on met une configuration, puis on peut avoir des listes. Mais là, quand on n'a pas de braquette, là, par exemple, pour ouvrir et puis fermer nos éléments de la liste, là, comment on fait ça? Ben tout ça, tous les éléments sont indentés par des espaces. Puis au début, c'est un des chocs, là. On est
quel défi, hein?
C'est un défi, là. C'est-à-dire, mais comment ça fonctionne, ce maudit fichier YAML-là? Puis une fois qu'on a compris ce principe-là, puis c'est souvent là qu'on passe outre d'apprendre le principe de base. Ben OK, il faut que je prenne au moins une demi-heure à lire puis à comprendre c'est quoi, comment fonctionne la structure. Puis une fois qu'on a passé ça, là, ça va bien. Donc, pour venir à notre fameuse ta fameuse question, Eric, on décrit ce que l'on désire. Donc, on est en mode déclaratif. C'est-à-dire, on écrit un manifeste dans un fichier YAML. On décrit ce que l'on veut que le système soit. Donc, on est en mode déclaratif. Ensuite, on envoie ce fichier-là avec l'API de Kubernetes. Donc, à la ligne de commande, il y a un outil qu'on va utiliser abondamment, qui est le Kube Control, qui est une petite utilitaire là, qui permet d'envoyer finalement les fichiers puis d'envoyer des commandes à Kubernetes. Donc c'est Kube CTL, son nom. Puis on va pouvoir lui envoyer ces fichiers-là. Les fichiers sont envoyés vers un des services que je mentionnais tout à l'heure là, qui est inclus dans le master, dans le node master, qui est finalement un API REST. Donc, la ligne de commande envoie le fichier à cet API REST-là. Puis ensuite, Kubernetes se met à la tâche. Dit, OK, bon, Guy, tu as besoin de 10 instances de ce conteneur-là. Puis qui vont avoir, par exemple, on peut configurer la mémoire qu'ils vont utiliser, etc. Puis Kubernetes va se charger de mettre à jour, de créer des instances de ces conteneurs-là dans des pods, puis de s'assurer qu'ils sont bien en vie. Puis dans ces fichiers YAML-là, on peut aussi définir des services. Je parlais tout à l'heure du load balancing. Donc, dans notre fichier YAML, on peut dire « Ah, j'ai besoin d'un service. Le service, lui, va être le pont qui va permettre d'accéder à mes 10 instances de microservices, puis va faire le load balancing. Donc, on définit tout ça dans des fichiers YAML. C'est certain qu'on peut le faire à la ligne de commande directement. C'est-à-dire, si je tape kubectl, puis je dis, ben déploie-moi ce conteneur-là, j'en veux 10 instances. Là, au lieu d'être en mode déclaratif, on est en mode impératif, c'est-à-dire qu'on donne une commande. La problématique avec ça, c'est que si j'ai sur mes 10 instances de conteneurs, si j'en ai un qui meurt, Kubernetes, lui, il y a rien qui dit faut que tu crées une nouvelle instance, faut qu'on soit à 10. Donc quand on est en mode impératif, on fait juste envoyer des commandes, mais on bénéficie pas de, comment je peux dire, de tout le moteur, de tous les agents qui sont inclus dans Kubernetes. C'est de là l'importance d'utiliser des fichiers YAML de façon déclarative. On pousse finalement ce que l'on veut que le système soit, puis Kubernetes se charge de garder ce système-là tel quel.
Le mode impératif, est-ce qu'il se programme aussi avec un fichier YAML comme le mode déclaratif?
Ben non, ce serait plutôt un fichier où tu envoies une série de commandes. Là. Donc, c'est pas un fichier YAML.
Et tu utilises quel langage dans ce cas-là?
Ben, c'est des lignes, c'est des commandes. Il n'y a pas de langage, là. C'est une commande à la fois. Là.
OK, une CLI, OK, je comprends.
Oui, absolument.
Là, et Guy, tu nous expliques comment on peut utiliser YAML pour configurer les pods. J'imagine aussi qu'on utilise le même YAML pour configurer les agents, les nœuds. Est-ce que la partie master, est-ce que c'est aussi dans un fichier YAML qu'on va définir ça ou c'est juste qu'on lance ça avec une ligne de commande?
Non, ça, c'est intéressant comme question, Mario, parce que une des problématiques à utiliser Kubernetes en entreprise, c'est que l'installation et la configuration au départ est très complexe. C'est une bonne visite chez le dentiste, puis peut-être une deuxième. C'est compliqué. L'avantage d'utiliser un cloud provider comme Azure, comme Amazon, comme Google Cloud Platform, comme DigitalOcean. Eux, ce qu'ils offrent, c'est Kubernetes as a service. C'est-à-dire que la partie difficile au début, c'est-à-dire l'installation puis la configuration là, de base là, de Kubernetes, elle est faite pour toi. Donc, après ça, tout ce que tu as à gérer, c'est tes nœuds. Puis tes pods avec les fichiers YAML que tu vas créer là. Donc
si je t'entends bien là, partir avec une ligne de commande, un master, le configurer adéquatement, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. c'est le genre de choses que ça, t'es mieux. C'est mieux de prendre un service qui est soit offert par Azure avec leur service Kubernetes ou sur Amazon ou chez Google. Puis principalement, à ce moment-là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est des fichiers Yaml pour définir tes pods.
Oui, absolument. Donc, ça enlève la première marche là, qui est très difficile à monter. Soit l'installation de Kubernetes. C'est sûr que si tu veux l'installer en entreprise, c'est possible de le faire. Mais le gros avantage des cloud providers, c'est qu'ils offrent Kubernetes comme un service. Là.
Puis est-ce qu'ils règlent aussi la plus grande faiblesse d'une architecture maître-esclave, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ton maître, ça devient ton talon d'Achille, c'est-à-dire que si lui il meurt, tout meurt. Puis là, à ce moment-là, d'installer Kubernetes, puis de mettre de la redondance, quand tu fais ça, tout, mettons, on-premise sur tes serveurs, c'est pas une mince tâche, tandis que j'imagine que ce que Azure nous offre, ça inclut de la redondance et toutes ces capacités-là.
Ben en fait, à la base, dans Kubernetes, il y a moyen de faire de la réplication du master, parce que tu as entièrement raison. Le master, si on a juste en production un master, ben là, c'est notre talon d'Achille. C'est-à-dire que s'il meurt, s'il plante, s'il se passe quelque chose, là, on vient de perdre notre système. Donc, déjà à l'intérieur de Kubernetes, il y a un système de réplication. Donc, on y va de façon impair. Là. On passe de un master à trois, à cinq. Donc, c'est possible de le faire. Puis, dans le cloud, là, c'est possible aussi d'avoir plusieurs instances de notre master.
Donc, j'imagine qu'il y a un intérêt à utiliser les services que offre Amazon ou Microsoft, parce que eux, ils prennent en charge tout ce risque-là qui est lié avec les masters. Puis, à ce moment-là, si tu suis les meilleures pratiques, il y a peu de chances que tu te retrouves dans le pétrin pour ce qui est de la gestion de ton master.
Oui, puis en plus, le master dans Azure, bon, c'est une machine virtuelle qui roule, là, mais il n'y a pas de coût. Donc, il y a juste le coût pour les nœuds.
Il n'y a pas de coût. La machine virtuelle ne te coûte rien.
En fait, le service Kubernetes, si tu, il n'y a pas de coût associé à créer ce qu'on appelle un Azure Kubernetes Service. Tu ne payes que pour les machines virtuelles que tu vas utiliser, donc les nœuds que tu vas utiliser.
Donc, ce qui est en production.
En fait, ton master, il est en production, sauf que il n'y a pas de coût associé à ça. Tu payes seulement pour les nœuds. Donc, si tu dis, par exemple, je veux créer un Kubernetes là dans Azure, puis je veux trois nœuds. Donc, je choisis la taille de mes machines virtuelles qui vont être mes nœuds, et je vais payer que pour ces trois machines-là.
De toute façon, quelque part, ça a du sens parce que un Kubernetes tout nu, sans nœud, ça sert à rien. Donc, Microsoft sait bien que si tu prends un service Kubernetes, tu vas un jour ou l'autre faire rouler des nœuds dessus et tu vas un jour ou l'autre avoir une facture.
Oui, absolument. Mais tu dis que un Kubernetes avec un seul nœud qui est le master, ça sert pas à grand-chose, mais ça sert au développement. Donc, localement, si on veut développer, comment on fait? On installe Docker. On installe Docker Desktop. Dans les configurations, il y a un setting qui nous permet d'activer Kubernetes. Et localement. Et donc, ce que ça va faire, je parlais tantôt, là, tous les services ou les managers là, qui roulent sur le master, ça va créer, ça va downloader puis créer des instances de ces différents services-là, localement sur notre machine, dans une machine virtuelle que Docker utilise déjà. Et puis, je vais pouvoir développer, tester, déployer des applications localement sur mon Windows 10, sur mon Mac ou sur Linux.
Ah, OK. Donc, il y a un intérêt.
Ben, il y a un intérêt, oui, mais pas en production, là, on s'entend, là, pour le développement local, c'est correct.
Sauf que quand tu le roules localement, tu n'es pas en train de le rouler sur Azure, donc de
non.
Utiliser le service Kubernetes de Azure. C'est vraiment que tu utilises les capacités de rouler Kubernetes dans un Docker, dans une machine virtuelle.
Ouais. Donc, mais ce qui est intéressant, ça te permet de tester tes fichiers YAML, s'assurer qu'ils sont corrects, que tu crées le bon nombre d'instances, que la communication, la réseautique de base se passe bien. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, beaucoup de tests que tu peux faire localement sur ta machine avant de déployer.
Tout à fait. Ça te permet finalement de valider tout ton code de déploiement avant même de dépenser un sou sur des services Azure.
Mm-hmm. Oui, absolument. Puis okay. Ça, Docker Desktop, il y a une version communauté de Community Edition qui est tout à fait gratuite. Donc, de toute façon, quand sur Windows 10, par exemple, quand tu veux faire du Docker, tu commences par downloader puis installer Docker Desktop. Ben, tu as juste à faire un checkbox, cocher un checkbox, puis tu as Kubernetes sur ton Windows 10, puis tu peux commencer à développer.
Tu as parlé de version communautaire, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une version payante qui existe de Docker?
Il y a une version entreprise, effectivement, qui est payante. Donc, ça vient avec du support, un petit peu. Mais au niveau des fonctionnalités, là, on peut dire que c'est à peu près la même chose.
Donc, est-ce que tu dirais que Docker Desktop, si on veut commencer avec Kubernetes, c'est le chemin qu'on devrait commencer par prendre?
Ben oui. Ben, d'un, il faut comprendre comment les conteneurs fonctionnent. Ça, à la base, là, avant de faire le premier pas dans Kubernetes, faut comprendre, puis faut bien comprendre les principes qu'il y a en arrière des conteneurs. Faut créer des déploiements de conteneurs seulement. Faut s'assurer qu'on a ces principes-là avant de s'attaquer à Kubernetes. Donc, ça qui est important. Puis dans ma formation, j'ai une formation de 3 jours là, sur Kubernetes puis les conteneurs Docker. Ben la première journée là, c'est 100% là Docker. C'est quoi les principes? C'est quoi comment ça fonctionne? Comment le réseau? Tu sais comment qu'on partage des espaces disques, des fichiers entre les différents conteneurs? Comment tout ça fonctionne? Puis aussi comment qu'on déploie dans App Service? Comment on déploie, par exemple, dans Azure Container Registry. Donc, c'est vraiment là, la première journée, là, je fais pas de Kubernetes, pas du tout. Puis ensuite, on s'attaque à Kubernetes là, au principe dans la deuxième journée. Puis la troisième journée, ben c'est Kubernetes dans Azure. Donc, j'ai bien compartimenté là, mes journées de formation pour que ça soit super clair puis qu'on focus vraiment sur les principes à apprendre. Parce que si on passe une étape, on va le payer un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'on va se buter à des problèmes, des problématiques, des concepts là, qu'on aurait dû apprendre plus tôt. Puis on va perdre du temps éventuellement. Donc, c'est pour ça que la maîtrise de Docker puis d'utilisation des conteneurs est importante avant de passer à Kubernetes.
Mais là, je t'entends, Guy, puis tu as glissé un mot sur ta formation que tu donnes. Ce que je comprends, c'est si on veut maîtriser Kubernetes, en tout cas un minimum, c'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure. Là. C'est un parcours qui va demander les quelques jours d'efforts que tu peux peut-être repartir sur plusieurs semaines. Si tu veux vraiment faire ça en blitz, tu vas suivre ta formation pendant 3 jours, tu vas avoir vu tout ce qu'il faut savoir pour vraiment démarrer. Mais le 3 jours d'effort, donc les, je sais pas, 20-25 heures de travail, tu peux répartir ça sur plusieurs semaines, tu le fais par toi-même. Puis à ce moment-là, la première étape, ça serait de commencer avec Docker Desktop.
Oui, oui, absolument.
Donc, c'est sûr que, bon, les gens peuvent venir suivre ta formation, là, mais on a des auditeurs qui sont en Europe, en tout cas, différents.
Oui, oui, oui. Puis Microsoft offre sur leur site là, toutes sortes de petites formations que vous pouvez suivre. Puis aussi, même un guide qui s'appelle 50 Days from Zero to Hero. Donc, en 50 jours de zéro à héros. Donc, il y a toute une série là de ce document PDF là qui contient toute une série de liens vers des documents à lire, vers des webcasts à regarder, vers des labs à faire. Donc, c'est super bien fait.
C'est sur 50 jours, ça veut dire qu'il prévoit qu'à tous les jours tu vas passer quoi, 15, 20, 30 minutes de
formation. C'est ça. Exact. Donc, c'est sûr que ça peut se faire en moins de temps. Puis, moi, ma formation, moi, je dis de zéro à ninja en 3 jours.
OK. Donc, on s'en c'est difficile de maîtriser bien Kubernetes par soi-même, même en moins de 3 jours. Avec un formateur, on peut y arriver. Puis sinon, ben garde Microsoft, eux autres recommandent de le faire à petite dose puis d'étirer ça sur 50 jours. Mais comme tu dis, on peut peut-être réussir à le faire en 20-25 jours. Par soi-même.
Oui, oui.
Puis,
oui, absolument.
Parce que c'est pas, quand même, c'est pas une technologie si simple que ça. Heureusement, là, la barrière pour commencer à utiliser a vraiment beaucoup diminué maintenant que Azure, Amazon, Google offrent un service Kubernetes. Parce que s'il n'y avait pas ces services-là, la barrière à l'entrée serait vraiment gigantesque. Parce que ça, c'est ce qui est difficile, là, comme tu dis, à configurer le fameux master.
Ouais, ouais, parce que c'est tellement complexe. Te souviens-tu là la première version là de Visual Studio Visual Studio Team System là 2000. Tu sais, on avait un bouquin là d'installation de je sais pas combien de pages, d'une centaine de pages. Là. Puis là, écoute là, si tu manquais une étape là, si t'étais pas attentif, tu manquais une étape là.
T'es dans le
T'es dans le pétrin là, il y a plus rien qui marchait. Puis il y a pas grand monde qui était capable d'installer correctement là Visual Studio VSTS puis c'est un frein à l'adoption carrément, mais là bon c'est sûr ça s'est amélioré tout ça, mais en utilisant là, si on prend l'analogie là, cette analogie là en utilisant Kubernetes dans le cloud, ben on vient tout de suite de sauter à l'étape suivante là, on n'a pas besoin de faire d'installation là.
C'est probablement le chemin à privilégier d'utiliser un service dans le cloud, entre autres celui qu'Azure fournit, qui s'appelle justement Kubernetes. Donc, le nom dit bien ce qu'est ce service-là. Mais là, moi, ça m'amène une question. Si c'est si long, la maîtrise, là, si on parle de 20-25 jours avant de commencer à devenir un ninja, ou comme tu dis, si on va suivre ta formation, c'est 3 jours intensifs, pourquoi les entreprises, pourquoi tout le monde s'en va sur Kubernetes? Parce que personne n'aime ça, là, se taper de la configuration des fichiers YAML. Donc, il doit y avoir un bénéfice tellement magnifique que tout le monde veut y aller pour ce bénéfice-là. C'est quoi la raison principale pour qu'on veut utiliser Kubernetes?
C'est d'avoir un orchestrateur pour pouvoir gérer nos microservices. Sinon, il n'y a pas de solution.
Okay.
Si on va avec une architecture 100% microservices, surtout quand on a des applications qui sont grand public par exemple, qui scale à des milliers d'utilisateurs, ça vient impossible à gérer si t'as pas un orchestrateur. Donc ça prend quelque chose de ce type-là pour pouvoir gérer, puis maintenir, puis déployer nos applications.
Moi, je peux te donner une autre raison. Nous, dans ma startup, on n'a pas une architecture avec multitude de multiservices. C'est plutôt, c'est surtout une application, un SPA, là, un single page application. Mm-hmm. Oui, il y a un back-end, mais notre back-end il est principalement en Cosmos DB. Donc, on utilise les services d'Azure. Donc, mais on a quand même décidé d'aller vers Kubernetes. Tout simplement parce que ça réduisait beaucoup nos... Ben, pour le même dollar, on pouvait facilement offrir supporter 4 à 5 fois plus de clients. C'est-à-dire que ça réduisait les coûts. Parce que justement, quand tu travailles avec Kubernetes, tu es capable de te faire des machines virtuelles qui, plus, avec la même petite machine virtuelle, tu peux servir plus de clients. Puis on sait que essentiellement c'est comme ça, ça marche sur Azure là. C'est ton la performance de ta machine, c'est ça que tu payes.
Puis... Ben en fait, tu viens d'écrire un bénéfice des conteneurs.
Ouais.
Donc avec un conteneur, je peux entasser plus d'exécution de code, c'est-à-dire dans le même espace. Sur le serveur, donc le même espace d'exécution, tant de CPU, le même espace mémoire aussi.
Est-ce qu'on peut dire que si on veut utiliser un conteneur, sans Kubernetes, c'est moins évident? C'est-à-dire que nous, en tout cas, on le chemin, c'était « Ah, il faut aller vers Kubernetes ». Est-ce que peut-être que là, on en a fait trop?
Mais absolument pas. C'est des cas d'utilisation qui sont différents. C'est pour ça que encore, je reviens au niveau du app service dans lequel tu peux rouler ton application packagée dans un conteneur, même ton application peut être en multi-conteneur. C'est un pattern, c'est un cas d'utilisation qui est correct. Si tu as juste besoin de ça, c'est correct d'utiliser, par exemple, app service plutôt que l'artillerie lourde avec Kubernetes. Mm-hmm. Donc, il faut juste réfléchir un petit peu, dire, bon, ben, voici mon cas d'utilisation. Kubernetes, dans ce cas-ci, c'est overkill. Je vais y aller, par exemple, vers App Service, même Azure Container Instance, qui est des containers serverless. Mm-hmm. Il faut juste prendre le temps de réfléchir, faire notre architecture de façon correcte.
Donc là, tu es en train de me donner une idée d'un sujet. On devrait peut-être revenir puis aller trouver du monde pour faire la comparaison entre tes différents choix d'architecture. D'un côté, tu as Kubernetes qui donne une scalabilité je peux facilement monter à des millions versus les app services versus les ce qu'on appelle des serverless. Donc, il y a...
Serverless, ouais. Ouais, ou t'as même Azure Container Instance qui roule des conteneurs, mais de façon serverless.
Donc, il y a plusieurs options en fonction de tes... Puis probablement que, en tout cas, c'est... On va essayer de faire un suivi là-dessus dans les prochains mois pour revenir à discuter un peu plus de ces choix d'architecture-là.
C'est tellement le fun.
Écoute, Guy, on te remercie beaucoup. Je pense que c'est un bon survol de qu'est-ce qui est tout ce qui touche autour de Kubernetes. Pour ceux qui ont vraiment qui ont le besoin de dire il faut qu'on aille vers Kubernetes, toute ta formation que tu donnes, c'est quoi, c'est en janvier ton premier cours que tu vas donner ou en février?
Ouais, fin janvier 2020 là, c'est mon j'ai une formation en français à Montréal, puis ensuite c'est à Toronto en février, puis ensuite en mars en anglais à Montréal. Mais aussi, je peux la donner en entreprise.
Éric, tu étais assez silencieux, donc c'était prévisible, mais...
Et difficile à couper, mon cher Mario.
Ouais, mais Guy aussi était bon. On n'a pas eu besoin trop de te relancer. Tu savais où tu t'en allais.
Vous étiez excellent.
Puis, mais je te remercie quand même. Comme j'ai dit, juste le fait de savoir que j'ai quelqu'un en appui, c'est toujours une aide psychologique non négligeable. Puis encore, on rappelle que toi aussi, tu as des formations autour de React, donc j'imagine que tu en as aussi en janvier, février là, sur ton site.
Absolument, et sur mon site, il y a des formations qui ont lieu à tous les mois dans toutes les grandes villes du Canada.
Super. Puis moi, ben je vous dis, moi, j'ai pas de formation. Je travaille très, très fort pour finaliser une version 1 de mon produit. Puis ça, on va faire du suivi là-dessus quand on sera rendu là. Des étapes, on est en alpha. Ben, sur ça, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. Puis on va vous revoir. Puis on va vous souhaiter en même temps aussi un joyeux temps des fêtes. Parce que Noël s'en vient.
En fait, l'émission est publiée au début décembre 2019.
Puis nous, on va revoir nos auditeurs en janvier. Donc, comme dirait l'autre, ne faites pas d'abus, pas trop d'abus, mais quand même, ayez du plaisir. On vous revoit début janvier pour une autre émission du Visual Studio Talk Show. Donc, bonne programmation.
Merci, à bientôt.